Le samedi 20 juillet 2024, nous avons profité de notre venue au Festival des Tours du Monde à Chanac, en Lozère, pour réaliser des interviews autour de la notion d'accueil. Le Festival des Tours du Monde, dont le sous-titre est Voix et Écho du Monde, prône des valeurs d'humanisme, de diversité, de proximité et de vivre ensemble. En ce sens, l'équipe du festival a souhaité revenir à une échelle plus humaine et proposer une formule plus intimiste qui incorpore davantage les différentes communes alentour à Chanac. Mais comment transmettre, à travers le tissu associatif, ces valeurs au public, qui n'est pas forcément sensibilisé à ces questions? Comment accueillir les festivaliers, les bénévoles, les professionnels? Et dans l'autre sens, comment les artistes se sentent accueillis au festival et plus généralement au milieu rural, présentement et tout au long de leur tournée? Nous vous proposons de découvrir 4 interviews de membres de l'association et d'artistes où nous interrogeons cette notion, autant dans son aspect social, politique que culturel, et revenons sur leur expérience personnelle, vécue et ressentie. Ces entretiens ont été réalisés par Maëva Belin et Samuel Hendrix de Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec la radio Rumeur du Monde, et sont à retrouver sur notre site internet rphfm.org. Second épisode avec Selector Matanzas, installé à Bruxelles depuis 20 ans et grand habitué du festival. Il a travaillé en tant qu'intermittent du spectacle, puis au service d'ONG et dirige désormais une association d'éducation populaire, Bruxelles Laïque, qui organise notamment le Festival des Libertés au Théâtre National de Bruxelles.
Alors on est maintenant avec DJ Matanzas, qui vient régulièrement sur le Festival des Tours du Monde. Est-ce que tu peux nous redonner un peu ta relation avec cette association et le festival?
Bonjour, merci. Moi je suis arrivé là il y a 18 ans, 19 ans. J'ai été programmé par Florian notamment, et Fabien n'était pas très loin d'ailleurs à l'époque. Et puis je suis arrivé dans ce village à la nuit tombée, puisque j'avais un peu de route à faire. Puis on a joué, on est reparti le lendemain parce qu'on avait une date à Carcassonne. Près de Carcassonne. Et donc, j'ai pas vu grand-chose du village, mais je me souviens très très bien de l'ambiance près de la tour. Il y avait Dupin qui jouait. Ça a été pour moi une espèce de petite révélation. Et puis surtout, après, j'ai lié d'amitié avec les organisateurs. On s'est recroisés à Perpignan, on s'est recroisés à Barcelone. Et puis du coup, ils m'ont fait revenir 2 ans plus tard pour faire des apéros sur la place du Pau. Ça s'est super bien passé. Et puis on a gardé le contact. Et puis WhatsApp est arrivé. On a pu regarder le contact très sérieusement. Puis voilà, de fil en aiguille, on s'échange aussi sur les écoutes qu'on a. Tiens, on a vu tel artiste, ce serait super de mettre ça à Chanac, etc. C'est une histoire d'amitié avec les organisateurs et les organisatrices, mais aussi avec le village en tant que tel, puisque c'est un personnage quand même, ce village et ses habitants, mais surtout les vieilles pierres. Voilà, mais moi, depuis, je me suis installé à Bruxelles il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc, c'est toujours avec un bonheur partagé que je reviens ici à Chanac.
Et tu viens une fois sur deux à peu près, non? C'était ça le
rythme
que tu
t'es donné? C'est ça, c'était le deal de départ. Puis je suis venu, on a testé des résidences d'artistes avec le Radio Tchango Sound System il y a plus de 10 ans. Donc on est venu en janvier. Là, c'était une expérience en soi de venir à Chanac en janvier, parce qu'il neigeait, on est resté une semaine. Ça nous a permis de resserrer les liens avec l'équipe, puisqu'il nous faisait bouffer tous les soirs, parce que nous, on bossait en résidence dans la halle polyvalente, qui n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, qui était la vieille halle polyvalente, plutôt architecture soviétique des années 60. Voilà, on a logé au village vacances, là où vous faites la radio, en plein hiver. Donc c'était aussi une autre découverte, de découvrir la Lozère, Chanac, au mois de janvier, en période de froid. Donc ça aussi, c'était vraiment très très chouette.
En dehors de ta présence à des Tours du Monde, tu as aussi un métier où tu es engagé dans des associations?
Oui, alors ce que j'expliquais tout à l'heure à vos camarades, c'est que j'ai été artiste pendant 15 ans, sous le statut d'artiste en France et en Belgique. Et puis après, j'ai travaillé dans une ONG. Là, actuellement, je travaille dans une association qu'on pourrait qualifier d'éducation populaire, en fait, en Belgique, qui s'appelle Bruxelles Laïque, et qui, entre autres choses, organise un festival indoor, comme on dit en Belgique, donc à l'intérieur, en octobre, qui s'appelle le Festival des Libertés. Donc c'est 10 jours de festival, théâtre, musique, exposition, débat. Et donc avec mes collègues, hein, certainement pas tout seul, on organise des débats. Un petit peu ce que vous avez fait ici, enfin ce qui a été fait ici avec Magic Cherfi. Mais en plus...
Des conférences, des concerts
gros,
aussi.
Des concerts, évidemment. Cette année, on aura Chinese Man, par exemple, et MC Solar. Donc avec des têtes d'affiches, mais aussi des découvertes. Et puis une thématique chaque année. Donc cette année, c'est avec un tiret humanisme, donc déshumanisme, faire écho au tri insupportable auquel on assiste depuis toujours, mais qui s'intensifie sur il y aurait des personnes qui auraient moins de droits que d'autres, qui mériteraient moins de droits que d'autres, etc. Donc voilà, il y a cette partie-là plus cérébrale du festival, on va dire. Et puis une partie musique avec des concerts. Tout ça se passe dans le Théâtre National, donc c'est un lieu assez prestigieux, mais qu'on squatte en quelque sorte pendant 10 jours.
Il y a des connexions qui se font avec ici, puisque il y avait l'été dernier ce sauveteur en mer,
Arnaud Banos,
qui était aussi présent au Festival des Libertés.
Et donc moi je l'ai rencontré ici. Enfin j'avais sa connaissance via un autre ami avec qui on est habitué du festival, qui est Étienne, qui était là l'an dernier. Et Étienne m'a présenté Arnaud ici. Et puis on a retrouvé Arnaud au festival parce que je l'ai invité en effet sur un débat sur le sauvetage en mer, avec notamment une des capitaines qui est mise en procès en Italie suite au sauvetage. Oui, donc il y a des connexions, une autre connexion, mais qui est tout à fait presque fortuite, mais qui est drôle à raconter, c'est que l'année dernière, il y avait Eliades Ochoa aussi ici. Cette année, on se posait la question avec le directeur du festival en Belgique, qui c'est qu'on pourrait mettre en ouverture du festival? Ce serait Eliades Ochoa, parce que il se trouve que je l'avais vu l'été passé, que le concert était somptueux et que ça collait bien avec le festival. Donc oui, c'est ce genre de connexion. Après, il n'y a pas de collaboration formelle entre le festival, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes, on n'est pas du tout sur les mêmes... Ici, on est en ruralité, nous, on est vraiment plus urbain. Dans une capitale, on est indoor, ici, c'est à l'extérieur, etc. Mais il y a des connexions humaines, ça, c'est sûr. Ouais.
Alors, on fait aujourd'hui un petit reportage sur la thématique de l'accueil. On cherche à essayer de voir un petit peu quelle vision est-ce qu'on a aujourd'hui en 2024 de cette notion. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu peux l'avoir autant en tant qu'artiste qu'en tant que personne qui travaille dans des assos et des ONG, qu'en tant qu'organisateur. Donc, tu es autant accueilli que accueillant. Pour commencer, est-ce que tu peux essayer, même si c'est pas facile, de nous donner une définition de qu'est-ce que c'est pour toi accueillir, l'accueil ?
En général, ou ouais, dans un général. Festival, ou en France, à l'heure du Front National?
Franchement, en général.
En général, c'est essayer de faire en sorte que les gens se sentent chez eux ou chez elles, quand on les reçoit, et qu'ils sont justement pas chez eux et chez elles, si c'est momentané en tout cas. Dans un festival, c'est peut-être d'essayer ça, de faire en sorte que le séjour se passe bien, avec des contradictions pour les artistes, parce qu'il y a des artistes qui ne font que ça, c'est-à-dire se poser, repartir, se poser, repartir. Et donc, c'est des choses qui ne sont pas faciles à vivre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on allie cette contradiction du départ constant et de l'arrivée constante pour les artistes avec, avec un village comme Chanac, par exemple. Et ça, je trouve que c'est une des grandes réussites du festival. Alors, cette année, c'est encore autre chose, parce que ça a vachement éclaté. Mais quand même, l'accueil a toujours été quelque chose de très chouette à vivre à Chanac, en fait. Je parlais tout à l'heure de la résidence en janvier qu'on a fait ici. On a été accueillis comme des rois. Enfin, je veux dire, c'était génial. Le soir, ils nous faisaient un aligot. Le lendemain, on avait droit à un sanglier grillé. Enfin, on a eu un vrai accueil et on s'est senti chez nous pendant une bonne semaine. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes ici. Puis après, ça dépend des artistes aussi. C'est sûr que quand ils arrivent en tourbus, ils voient pas grand-chose de Chanac. Ça, c'est pour le festival. Après, l'accueil en général, évidemment qu'on pense à l'accueil de l'autre avec un grand A. Là, ça se dégrade très sérieusement. D'abord, l'accueil dans la tête. C'est-à-dire que pour accueillir l'autre physiquement, c'est-à-dire celui qui n'a pas forcément la même culture. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce à quoi on assiste, donc là je fais référence aux dernières élections, mais aussi à ce qui traîne depuis maintenant 30 ans en France, c'est-à-dire la montée de l'extrême droite, de ses idées, l'impact que ça a dans l'esprit des gens qui regardent maintenant CNews, qui sont abonnés aux chaînes de Canal+, qui, je le rappelle, est détenue par Bolloré, et qui, peut-être un peu plus insidieusement que CNews, mais... on ne déconstruit pas, en fait, ce que les discours fascistes et d'extrême droite ont amené ces 30 dernières années. Alors après, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a une... je ne vais pas utiliser le terme de résilience parce qu'il faut le laisser à Boris Cyrulnik et toute la psychanalyse, mais on a quand même quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. C'est une, depuis la, peut-être certainement la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qui nous est profondément et humainement insupportable, à l'idée de laisser des gens dormir sous des ponts, comme on peut le voir à Paris pour les sans-papiers, les réfugiés, ou dans la jungle à Calais. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont insupportables. Moi, j'ai une référence là-dessus qu'un sociologue suisse qui s'appelle Jean Ziegler, qui a d'ailleurs été parrain du festival une année. Jean Ziegler est un sociologue suisse, mais qui a été aussi un fervent militant depuis toujours et qui a eu la chance d'accéder à des responsabilités qui lui ont permis de dire les choses tout haut dans des cénacles tels que l'ONU, par exemple, puisqu'il a été haut rapporteur aux questions, haut rapporteur spécial pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour les questions de l'alimentation. Et c'est quelqu'un qui cite souvent cette phrase d'Emmanuel Kant qui dit que l'inhumanité que l'on voit chez l'autre détruit progressivement l'humanité en soi, en substance. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas accepter l'inacceptable. À ça, on s'aperçoit quand même qu'il y a des personnes pour qui c'est insupportable et qui réagissent. Donc par exemple, en Belgique, dans un parc de la capitale, donc à Bruxelles, au parc Maximilien, il y a eu des réfugiés qui ont été laissés à l'abandon, entre guillemets, qu'on refusait de loger en attendant qu'ils introduisent leur dossier de demande de réfugiés. Et c'était en 2015. Et il a fait un hiver terriblement froid et les gens se sont organisés. Une poignée de personnes ont décidé que c'était hors de question. Et quand je dis organisés, c'est qu'ils se sont organisés très 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 formellement et très structurés. Les citoyens belges et les citoyennes belges ont logé, je pense, cet hiver-là, plus de 10 000 personnes en continu. Et donc il y avait des gens qui faisaient le chauffeur, il y avait des gens qui accueillaient chez eux avec leur famille. Et donc ça a posé un certain nombre de problèmes, notamment ça pose un problème entre guillemets technique. C'est que ça veut dire quoi accueillir, pour répondre à ta question, d'autres personnes avec une culture différente, comment est-ce qu'on à la fois on fait médiation entre nos cultures au sein d'un chez-soi, enfin, etc. Il y a plein de questions qui sont posées, puis il y a une question politique. Et la question politique, c'est est-ce que c'est aux citoyens ou aux citoyennes d'accueillir chez soi avec leur argent, avec déjà que beaucoup sont précarisés, qu'est-ce que ça raconte? Alors, ce qui est assez dingue, c'est que cette plateforme citoyenne, puisque c'est comme ça que ça s'est appelé, la plateforme citoyenne d'hébergement, est devenue quelque chose de très structuré. C'est devenu une association, c'est d'ailleurs la première association en termes d'emploi à Bruxelles, puisqu'elle emploie plus de 300 personnes aujourd'hui. Et ça s'est structuré en camp d'accueil, etc., en chambre d'accueil, mais avec un transfert de compétences de l'État vers une association. Et ça, voilà, on a perdu quelque chose au passage, très certainement. Mais donc, moi, ce que je trouve très positif, c'est qu'il y a des réactions en fait à l'innommable, et puis il y a en effet petit à petit des gens qui abandonnent et qui se laissent aller à l'adhésion de discours qui sont insupportables et qu'on croyait révolus. Mais comme quoi hein. Je pense toujours aux personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, aux résistants et aux résistantes. En fait, je me dis parfois heureusement qu'ils sont presque tous partis. Je crois qu'ils sont d'ailleurs presque tous partis. Parce que c'est des gens qui, après la guerre, ont tellement vécu des choses dégueulasses, irréparables, etc., se disaient souvent que ce serait plus possible de revoir ça. Et en 2024, voir le Front National dans certaines communes faire 75%, comme on l'a vu là dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, ou même le sud de la France, là en dessous de Montpellier, je veux dire, je pense que c'est des choses qui les auraient plus qu'attristés, c'est-à-dire dévastés. Et je pense qu'on a un boulot, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis on, c'est tout le monde et d'abord l'État, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas déconstruit un certain nombre de choses qui ont été impulsées, et notamment par la gauche, soyons clairs, et en premier lieu par une certaine droite, celle de Sarkozy. Alors on en rediscutait avec Majid Cherfi, il ne faut jamais oublier, il y a une filiation politique des idées fascistes et de l'extrême droite, quoi. Ça commence avec Le Bruit et l'Odeur et Jacques Chirac, et puis ça se termine avec Hollande et son putain de débat sur la nationalité et sur l'identité nationale. Voilà. Et donc après ça, bah, y a rien. Après ça, c'est la Macronie, c'est le désert intellectuel, et on en arrive à quelque chose de dramatique, quoi.
En ce qui concerne la ruralité, justement, un peu ce que tu parlais, là, le sud de la France, Montpellier, etc., est-ce que tu penses qu'il y a une vraie différence entre... comme ici, village un petit peu loin de grandes métropoles, et du coup en comparaison avec les grandes métropoles, en termes d'accueil, qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins accueilli différemment dans ces villages en fait ?
Je crois que c'est un stéréotype qu'on accueille mieux en campagne. C'est un vrai stéréotype parce que Chanac l'hiver, c'est pas marrant, quoi. C'est pas l'accueil de l'été accolé au tourisme, et c'est normal. Ils ont autre chose à foutre. Enfin, tu vois, ils vivent ici. Nous, on est de passage. Donc c'est ça aussi le truc. Après, c'est vrai qu'il y a une partie touristique à Chanac. Hein. Je veux dire, le village de l'autre côté, derrière l'église, c'est une partie touristique sur laquelle le village vit. Et donc c'est important. Ça... En fait, l'accueil est devenu pour beaucoup de villages ruraux comme celui de Chanac. Mais encore ici, ça reste tranquille. Hein, mais quelque part, un métier, quoi, une occupation économique... mais j'en sais rien, je sais pas si on accueille mieux à Chanac qu'à Montpellier par exemple, mais il est clair que l'urbanisation, la manière dont on conçoit l'urbanisation, elle déshumanise. Quand on en est à construire des bancs publics qui font en sorte que personne peut s'allonger pour y passer la nuit, pour pas dire plus, bah voilà, on est au début de l'impulsion fasciste parce qu'en plus ça dérange qui, enfin voilà, donc oui, j'ai pas vu de banc anti-SDF à Chanac. Voilà. J'en ai vu beaucoup à Bruxelles, j'en ai vu à Montpellier, j'en ai vu à... quoi qu'à Montpellier, j'en sais rien, mais j'en ai vu dans les grandes villes. Mmh. Et puis il y a aussi le fait que la précarité en ruralité, elle est peut-être moins visible, mais elle existe. On sait très bien que la précarité existe dans les campagnes françaises ou belges ou peu importe, mais elle existe, elle est même parfois plus violente qu'en ville. Donc c'est plein de contradictions. Enfin, tu vois, j'ai pas de réponse là-dessus, mais on m'a expliqué par exemple que pendant le Covid ici à Chanac, en Lozère, c'était parfois plus violent, ou en tout cas différemment vécu qu'en ville. Parce qu'en ville, les gens, ils sont là, ils se côtoient. Ici, les distances sont aussi vachement plus distendues. Donc j'ai pas de réponse, mais il y a des constats quand même. Mais il faut se méfier des stéréotypes. Ouais.
On a vu aussi avec Sabrina que la notion d'accueil, en final, elle était vachement liée avec la notion de militantisme. Est-ce que tu te sens, est-ce que aussi ces deux concepts se rejoignent pour toi, justement, d'accueillir, c'est aussi se donner le pouvoir d'accueillir.
Oui, alors moi, j'ai pas eu le choix, parce qu'en fait, moi, j'ai une grand-mère italienne, un grand-père italien, qui ont émigré de la Sardaigne vers le nord de la France, qui sont allés travailler dans les mines et qui ont vécu le racisme. Donc, une fois que tu es légataire de ce truc-là, en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu adoptes tout de suite un autre prisme. Alors, c'est pas le même que celui d'un Majid Cherfi qui va t'expliquer que lui, ça se voit sur sa tête, en fait. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère, avant de subir le racisme à la boulangerie, quand on se foutait de sa gueule en la traitant de Rital, il fallait qu'elle s'approche du loin de la rue et qu'elle ouvre la bouche, en fait. Sans quoi, on voyait pas trop que c'était une Italienne. La mère de Majid Cherfi, elle est au bout de la rue, on sait très bien qui elle est et ce qu'on en pense. Enfin, en gros, le racisme se déploie beaucoup plus vite. Le marqueur est sur le physique, là où les grands-parents italiens avaient une faculté à pouvoir essayer de se fondre dans la masse. D'ailleurs, c'était un leitmotiv des Italiens et des Portugais à l'époque en France, c'était « ferme ta gueule ». Comme ça, on te chopera pas en tant qu'étranger, quoi. Donc cette notion d'accueil, elle est très vite là dans des familles issues de l'immigration, c'est clair. Après, là où c'est plus inquiétant, c'est que ces mêmes familles issues de l'immigration deviennent elles-mêmes racistes à l'égard des autres. Voilà, c'est un schéma qui est bien connu. Je veux dire, il y a l'électorat FN, ça fait 30 ans qu'il contient des gens qui ont vécu eux-mêmes le racisme, des Portugais, etc., des Italiens, des gens qui se sont soi-disant intégrés dans la République française. Donc oui, alors après, est-ce que c'est une question de militance? Ça ne devrait pas, en fait. Ça ne devrait pas être une question de militance, l'accueil. Il y a un adage qui dit respecter l'étranger voyageur, on devrait appliquer ça, même s'il s'installe ou qu'il ne s'installe pas, d'ailleurs. Et puis, il y a une réalité. Majid le rappelait il y a 2 jours ici. La réalité en Belgique, à Anvers, c'est que les 3/4 des naissances à Anvers font état d'un baptême civil, hein, de nom. Les prénoms qu'on donne aux naissances sont 3/4 étrangers. Donc voilà, la réalité, elle est là. On pourra avoir des fachos au pouvoir, il n'y a rien à faire. Il y aura des Mohamed, des Aziz, des Sabrina, tu vois. Enfin, je veux dire, pendant ce temps-là, la France, elle se mélange, quoi. Et le mélange, il a lieu. Là où c'est craignos, c'est que pendant que ce mélange a lieu, on dénie un certain nombre de droits à des personnes qui sont pourtant là, qui sont nées ici, qui ont une carte, qui sont tout à fait légalement, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais ici. Il y a quelque chose d'assez hallucinant qui s'est passé avec les élections, c'est qu'il y a un écart entre les médias dominants et la masse média mainstream, on va dire, de ce qu'ont essayé de faire avaler les médias et ce que pensent réellement les gens. Je pense qu'il y a encore un fossé, heureusement d'ailleurs, hein, entre ce que pense CNews, entre ce que pense même LCI, TF1, pour pas dire France 2 d'ailleurs, et ce que pense l'arrière-pays, entre guillemets, français, la France d'en bas, comme disait Raffarin. Mais vraiment, la question c'est quand c'est que cet écart va être réduit, et c'est là où ce sera peut-être craignos, quoi.
Ouais, tu à moins d'avoir d'autres journalistes. C'est ça, tu penses qu'il y a des possibilités que ce soit réduit, justement, c'est ça,
bah, il est de plus en plus réduit, les chiffres le montrent. Ouais. On passe de, on a 11 millions d'électeurs pour Le Pen, et ça bouge pas. Voilà. Après, c'est clair que le miroir déformant des médias est à jouer plein tube, là. D'ailleurs, jusqu'à nous inquiéter, c'est-à-dire qu'on a flippé, on a été... et à raison. Mais parce que eux nous serinaient qu'ils allaient gagner. C'est quand même pas ce qui s'est passé, quoi. Donc parce qu'on a une bande d'éditorialistes de droite qui sont prêts d'ailleurs à accepter tout à fait que le RN atterrisse à Matignon, bah du coup on se prend nous-mêmes à paniquer en se disant putain mais ça va vraiment arriver. Bah en fait non, il y a quand même une France qui vote contre, il y a une France qui se dit bah non c'est hors de question, qui va aux urnes, qui malgré tout ce qu'on nous a fait est martyrisé en termes de démocratie, puisque moi j'ai pas d'autres termes. Moi j'ai voté, combien j'ai voté ? 3 présidentielles ? À chaque fois, j'ai pas pu voter pour ce que je voulais. Enfin, au premier tour, mais au second tour, c'était à chaque fois machin chouette contre Le Pen. Voilà. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en discute aussi, hein, de cette 5e République. Mais voilà, pour répondre à ta question, ça devrait pas être une question de militance. Ça devrait être inculqué aux enfants à l'école. Ça devrait faire partie du corpus, quoi. On devrait peut-être du coup rajouter dans la devise française solidarité en plus d'égalité, de liberté, égalité, fraternité. Quoique dans fraternité ou sororité, il y a quand même un sacré fond, quoi. Et qui provient de mouvements révolutionnaires, insurrectionnels, qui justement avaient en termes de solidarité un certain point de vue, quoi.
J'avais une question, c'était quand la dernière fois aussi que tu t'es senti super bien accueilli par une asso, par un lieu, par quelque chose, une expérience qui aurait été marquante pour toi?
Je vais pas lécher les bottes de Fabien, mais si, quand tu pars de Paris et que tu arrives de Bruxelles, donc tu rajoutes la distance Paris-Bruxelles, mais quand tu pars de Paris à 7h du mat et que tu arrives à 13h après un voyage en train puis bus depuis Paris, et que Fabien vient te chercher à Marvejols, avec le sourire et que tu bois ton premier café avec eux, bah ouais, t'as vraiment l'impression d'être super bien accueilli et que tout va bien se passer, sauf s'il pleut ce soir. Mais c'est ça à chaque fois ici à Chanac. Il y a des fois c'est assez bizarre. Hein, il y a des fois on s'est pas appelé d'une année sur l'autre ou même de un an et demi. Là, moi, j'avais pas eu Fabien avant qu'il me rappelle pour cette année. Je l'avais pas eu de 6 mois. Et puis on se rappelle et c'était comme si c'était avant-hier, quoi. Voilà. Michel, le troisième Fabien de la historique, le trésorier de l'association, ben on s'appelle jamais entre les deux éditions. Il y a parfois 2 ans qui passent, il y a parfois 1 an. J'ai pas l'impression qu'on bouge, peut-être, mais voilà, c'est très chouette de se dire que les personnes vont pas forcément beaucoup changer. Elles vieillissent, ça c'est sûr. Mais voilà, le fond est là, quoi. L'accueil et le... J'ose pas dire l'amitié parce qu'on n'est pas assez proches pour parler d'amitié, mais quoique, on pourrait être amis, parce que si on était voisins, on serait certainement amis, oui. Mais on l'est pas, donc même WhatsApp a pas solutionné le truc.
Et au niveau des actions qui vont t'attendre cet été ou à la rentrée justement, qui vont aller sur ce travail que tu fais à travers aussi le festival Liberté et à travers ton association Laïcité, ça va être quoi les grosses actions futures qui vous attendent?
Bah là, il y a le festival en octobre, donc là mardi je retourne au taf pour boucler ce qui me concerne, donc des débats sur la programmation, et puis il y aura faire le festival pendant 10 jours, donc c'est du 10 au 19 octobre. Et puis après, c'est essayer d'anticiper ce qui interroge les gens en Belgique. Donc nous, on a eu des élections aussi là qui ont été assez violentes, puisqu'elles ont été plutôt à droite, avec un espèce de parti de droite qui flirte parfois avec des idées d'extrême droite, très clairement.
Aussi pareil en Belgique.
Ouais. Même, en fait, on a juste 20 ans de retard avec la philosophie de Sarko en 2007 ici. Donc ça aussi, c'est assez terrible de voir comment, au niveau européen, au-delà de la France, on ne tient pas d'observation et on ne retient pas les leçons de certains pays. Ce qui se passe en France, c'est ni plus ni moins l'expérience de Berlusconi il y a 20 ans, en fait, en Italie. Hein, je veux dire, c'est clair et net. Enfin, je veux dire, le macronisme, c'est le mouvement 5 étoiles, quoi. Enfin, à quelque chose près. mais on n'a pas assez regardé chez nos voisins, on n'a pas peut-être assez discuté avec les Italiens et les Italiennes, on n'a pas... Et donc espérons qu'on n'arrive pas jusqu'à l'élection d'une Mélanie en France, mais c'est un peu ça en fait qui se passe en Europe. Idem avec Orban, enfin je veux dire, on l'a... Alors certes, ça obéit à des contextes particuliers dans des pays, mais il n'y a rien à faire. Et la Belgique obéit à ça, c'est-à-dire qu'elle a toujours un peu de retard sur la France, parce qu'elle a quand même un espace francophone qui regarde la France, etc., qui suit les télés françaises, mais qui n'absorbe pas en fait les expériences négatives, parce que Sarko, tout le monde connaît hein, en Belgique. Enfin, je veux dire, tout le monde a bien vu qu'il avait chassé des Roms, tout le monde a bien vu qu'il avait dressé une partie de la France contre l'autre. Tout le monde a bien vu à l'époque qu'il disait, vous savez, il y a deux types de Français, il y a ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent tôt et qui travaillent, et les autres. Et c'est assez pétrifiant de voir que le discours du parti de droite en Belgique actuel, qui vient de remporter les élections, utilise exactement la même phrase. Il y a ceux qui se lèvent tôt, et puis il y a les chômeurs, et ces chômeurs, on ne peut pas laisser au chômage, etc. etc. Et donc, c'est un défi assez colossal de comment est-ce qu'on sort de... Comment est-ce qu'on sort de ça et comment est-ce qu'on amène les gens à réfléchir un peu plus loin que ce que leur proposent d'une part les médias mainstream, mais aussi que ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont envie aussi de faire, quoi. Je pense qu'on est dans des sociétés qui proposent plus beaucoup de choses en termes d'utopie et de rêve, quoi. Et ça, c'est, pour en revenir au festival, c'est une des leçons du festival. C'est, après 20 ans, bah, on éclate le festival et on fait tout autre chose. Non mais c'est vrai, il y a très peu de festivals qui se remettent en cause comme ça. Déjà c'était en germe, hein, pour l'avoir suivi pendant 20 ans. Je me souviens très très bien la fois où Massilia est venu, ils avaient décidé de ne pas augmenter la jauge par exemple. Ils auraient pu faire un concert à 3500 personnes, déplacer le concert ailleurs, ça aurait pu. Mais il y avait ce refus de se dire on va pas déshumaniser, on va rester cohérent. Et cette cohérence, elle se retrouve encore cette année quand on éclate le festival et qu'on... Alors avec des prises de risques qui sont assez conséquentes. Hein. Ouais, ça c'est très très beau.
Bah merci beaucoup,
merci
Julien, DJ Matanzas, qu'on retrouve sur des
là
tours
maintenant,
du monde
ouais.
après les concerts, c'est ça ?
Non, là maintenant aux apéros. J'ai laissé Caravane tout seul pour vous, mais je vais aller le rejoindre pour le. Okay.
Et en octobre à Bruxelles, bien sûr.
Et à Bruxelles quand vous voulez.
Ça marche, merci.
Salut.
When they say United States is supposed to be a land of freedom. Peace and justice. We get a piece of hell.
We succeeded to take our last steps to freedom. Let freedom ring.
Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American.
The only African political prisoner on death row. Appeal to you, sisters and brothers, to fight tooth and nail to save Mamiya's life.
The writ of habeas corpus is the most precious gift that exists in this criminal justice system. The writ of habeas corpus is our individual key to that freedom.
Let freedom ring.
All I hear is gunshots. All I hear is gunshots. All I hear is gunshots.
We get a piece. We get a piece. Peace.
Who has lived on the night side of this dream, unjustly imprisoned for a crime he did not commit. Mumia Abu-Jamal speaks to us of the institutional injustice and spiritual impoverishment that permeates our culture.
My name is Mumia Abu-Jamal.
A rainbow nation at peace with itself. And the world.
But it was the key to my freedom. You know, the key that Mumia Abu-Jamal needs right now. And the only way that we will be able to get that.
Let freedom be.
We will not stop organizing. We will not stop demonstrating. make the price so high that it'd be impossible.
From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal.
Freedom is their reward.
De son pays.